Bonsoir. Le président de la République a décidé ce lundi 18 mars de suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus et la tenue prochaine de l'élection des gouverneurs. C'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle à la Cité de l'Union africaine. Cette décision fait suite aux allégations de corruption après l'élection des sénateurs vendredi dernier en RDC. Félix Tshisekedi instruit à cet effet le procureur général près la Cour de cassation de diligenter des enquêtes contre les corrupteurs et les corrompus au cours de l'élection des sénateurs. Quelle analyse faire de cette décision? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 18 mars 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jérôme Mbosso. Il est président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Monsieur Mbosso, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly Kouté, bonsoir à tous les nombreux auditeurs de la Radio de la Paix.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, professeur à la Faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, Madame Ki.
Et Alain Lomanja, il est analyste des questions électorales. Monsieur Lomanja, bonsoir.
Bonsoir, Madame, et bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Bahati Eli depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Mieux vaut tard que jamais. C'est une décision à saluer. Cependant, pour que cette enquête soit réalisée de façon indépendante, le président de la République doit mettre à la disposition du PGR des moyens suffisants. Il est important que le président détermine le timing de l'antenne de l'enquête, je voulais dire, afin d'éviter une crise prolongée au sein du Sénat. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le président de la République a décidé ce lundi 18 mars de suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus et la tenue prochaine de l'élection des gouverneurs. Félix Tshisekedi a instruit à cet effet le procureur général près la Cour de cassation de diligenter des enquêtes contre les corrupteurs et les corrompus au cours de l'élection des sénateurs. C'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle à la Cité de l'Union africaine. En croire le vice-premier ministre de l'Intérieur et porte-parole de la réunion institutionnelle, la décision du chef de l'État est motivée par son souci de lutter contre la corruption. On écoute Basile Olongo au micro de Michel Kifinda.
Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, c'est l'évaluation de l'élection sénatoriale. Après avoir échangé, écouté les avis et considérations de participants, bien entendu, le chef de l'État est le garant de la Constitution. L'article 160 alinéa 2 nous a été lu. Après avoir écouté les avis et considérations de participants, le président de la République a pris trois décisions importantes. La première mesure, de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs. La deuxième, l'élection de gouverneur est également suspendu, renvoyé à une date ultérieure. Troisième mesure, il a instruit le procureur de la Cour de cassation de pouvoir mener des investigations, dépister tous les sénateurs qui se sont trempés dans la corruption et les députés provinciaux, donc les corrupteurs et les corrompus, pour qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Il a insisté qu'il s'est battu, en tout cas, pour combattre les antivaleurs et ça ne peut pas se reproduire sous son régime. Il continuera à se battre pour que ces antivaleurs disparaissent en République démocratique du Congo.
C'était là Basile Olongo, vice-premier ministre de l'Intérieur et porte-parole de la réunion interinstitutionnelle. Jérôme Mbosso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Vous êtes également coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Quelle analyse vous faites de la décision du chef de l'État?
Merci Madame Kélikouté. Nous saluons à sa juste valeur, des trois décisions prises par le président de la République lors de la réunion interinstitutionnelle. Et la première décision qui nous réconforte, c'est quand on parle de la suspension de l'installation de l'élection de sénateurs, l'installation. Parce que ici, le pire allait être si on parvenait à annuler les élections. Parce que quand l'élection a été organisée par la Commission électorale nationale indépendante, et l'organisation a respecté les normes et standards internationaux en matière d'organisation des élections. Il y a eu de quoi au niveau de grands électeurs. Et la deuxième décision, c'est le report de l'élection de gouverneur. Pensons que c'est une décision qui va contribuer à détendre l'environnement électoral, à détendre l'environnement électoral et l'environnement politique et social. Et la troisième décision, c'est demander au procureur général de la République de traquer les corrupteurs et les corrompus. Nous pensons, oui, on va les traquer. Mais le report de l'élection du gouverneur aura un impact. Vous êtes rendu compte que les gens... Quel est le timing de ce report? À quand on va procéder à l'installation de sénateurs? À quand on va procéder à l'élection du gouverneur? Parce que quand il y a un report de gouverneur, qu'est-ce qu'on va apporter comme remède pour que ce qu'on allait assister ne puisse pas s'assister? Étant donné que le système électoral n'est pas modifié, c'est le scrutin indirect, l'élection du gouverneur, c'est les grands électeurs qui sont les mêmes députés provinciaux qui se sont distingués dans la corruption, qui vont élire le gouverneur, quel que soit 2 mois, 3 mois après, étant donné que le système n'est pas changé, ça donne le même résultat de corruption. L'autre élément important ici, c'est quand on parle maintenant des élections. Les élections, madame, c'est une compétition. Quand on est dans une compétition, il faut avoir la chance de remporter. Et pour avoir la chance de remporter, il faut avoir des stratégies, des tactiques et des techniques, des méthodes. Et ici, il y a trois équipes qui interviennent dans la débâcle électorale, tout comme dans la réussite du processus électoral. Un, en football, c'est les coachs. Le coach, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est l'autorité morale. Il est assisté par l'équipe préparateur physique, c'est le secrétaire général. Deux, à ce niveau, deux, ce sont les joueurs. Les joueurs sont qui dans le cas de l'espèce? Ce sont les députés provinciaux. Trois, les spectateurs, ce sont les combattants et les militants. Maintenant, l'élément moteur dans la réussite dans une compétition, c'est l'infiltration. Est-ce que CASH, FCC, Lamouka, et se sont infiltrés mutuellement pour savoir avoir les agendas? Qu'est-ce que l'autre entraîneur de là a donné comme consigne aux joueurs et aux supporters? Et à ce moment-là, quand il y a cette infiltration, on a les données. Combien de fois FCC a reçu les joueurs comme entraînement pour donner des données? Combien de fois Kacha en a fait et Lamouka? Et combien de fois parce que quand on intervient maintenant au niveau des supporters, qu'est-ce que vous avez apporté pour étudier les résidences de chaque député avant même les élections, pour les entraîner à avoir leur desiderata? Madame, quand on débarque un joueur sur le terrain, il faut une prime de motivation. Quand nous envoyons nos joueurs de football, de l'équipe nationale, on ne dit pas vous allez défendre les couleurs, mais il faut une motivation. Et la motivation devait venir de l'autorité pour donner une motivation à ces joueurs qui sont les députés provinciaux pour les épargner des tentatives, des allégations de corruption. Et c'est de là où le secrétaire général, le secrétaire général de Lamouka, de CASH et de FCC devait voir comment rapporter à l'autorité et combien de fois l'autorité a eu des séances avec des joueurs pour le nombre de motivation.
Jérôme Bosso, cette décision du chef de l'État ne risque pas d'avoir un impact sur le processus électoral, sur le calendrier électoral, si on doit repousser la date de l'élection des gouverneurs, on doit installer, on suspend l'installation des sénateurs, ça ne risque pas d'avoir un impact sur le calendrier.
À coup sûr, ça va impacter. Madame, ça va impacter même le cycle électoral congolais. Ça va impacter même la présentation du gouvernement. Qu'est dit la loi fondamentale de la Constitution? Le gouvernement est présenté devant le Parlement. Étant donné que le Sénat n'a pas encore vu le jour, quand est-ce que le gouvernement qu'on va former, quand est-ce qu'on va le présenter devant le Parlement? À ce moment-là, ça va impacter. Et le timing qui était prévu, 15 jours, installation, ça c'est la loi électorale, 15 jours après installation, après l'élection, il y a installation des sénateurs. Et nous avons quand même glissé là-dessus, ça, les 15 jours ne seront plus respectés. Et le reste du calendrier, le reste du calendrier va être basculé. Ainsi, ça va avoir l'impact. C'est à ce niveau-là que nous disons, quand il y a victoire électorale, quand il y a des confitures, quand il y a des bandades ou bien des confitures électorales, c'est la responsabilité est aux trois niveaux. Au niveau des coachs, qui est autorité, et à ces trois niveaux-là. Donc, il faudrait à ces gens-là, à toutes ces équipes, d'avoir les stratégies. Comment s'en sortir? Donc, ce n'est pas en dernière minute qu'on doit décrier qu'il y ait allégation de grogne. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de stratégie pour mettre fin, pour parer à ces allégations de corruption?
Merci, Jérôme Bosso, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté de sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette même université. Professeur, votre lecture par rapport à cette décision du chef de l'État?
Une décision qui, au point de vue, était attendue. Mais on ne savait pas quelle est la forme que cette décision prendrait. Mais là, on a aussi affaire à un système électoral qui a montré ses limites. Qui a aussi montré ses vénalités, son immoralité. Et l'élection des sénateurs a montré une très mauvaise image du pays, et il fallait donc éviter une reproduction de ce scénario au niveau de l'élection de gouverneur. Et donc, c'est toutes ces mesures qui sont prises sont évidemment destinées à moraliser le système électoral congolais, mais surtout d'éviter la reproduction de ce qui s'est passé au niveau de l'élection des gouverneurs. Et c'est vrai que cette décision va être diversement interprétée.
Certains analystes estiment que cette décision viole la loi, professeur.
En fait, la décision, le cadre dans lequel elle a été prise, c'était le cadre, parce que vous avez dit qu'il y a eu une réunion interinstitutionnelle. Et c'est en fait au cours de cette réunion qu'on peut évaluer le processus électoral et décider si oui ou non on peut maintenir une élection à une date précise ou si on peut la rapporter. Alors, mais ce qui est assez surprenant dans le communiqué, c'est qu'on ne dit pas que c'est la réunion qui a décidé, c'est le comité interinstitutionnel qui a décidé, on dit que c'est le chef de l'État qui a pris la décision. Alors qu'on aurait pu attribuer la décision, évidemment, à tous les membres du comité interinstitutionnel. Est-ce qu'il y a eu une évaluation collective ou il y a eu une évaluation du seul chef de l'État? Est-ce que la décision, c'était une décision consentie par tout le monde ou on l'attribue au chef de l'État comme garant de la nation? Il y a là toutes ces questions qu'il faudra évidemment se poser. Mais on a là affaire à des véritables lacunes de notre système électoral. Un système électoral, et je crois qu'en tant que garant de la nation, le chef de l'État devrait veiller au bon fonctionnement des institutions. Et là, je suis très préoccupé par l'image que nous donnons tant en interne qu'à l'international. Une très mauvaise image, un pays qui ne fonctionne qu'avec l'argent, et là, vous avez un rapport entre argent et État, entre argent et système de représentation, et tout à résumer autour de cet argent. Et donc, vous avez là un tableau qui est très, très sombre et je crois qu'il fallait faire quelque chose.
La corruption, elle existe depuis toujours, professeur Félicien Kabamba. Pourquoi c'est vraiment seulement aujourd'hui que le chef de l'État, c'est vrai que c'est l'actuel chef de l'État, il est nouveau, décide, est-ce qu'on peut annuler une élection, pas plutôt annuler l'installation, reporter les élections parce qu'il y a des allégations des corruptions avant même qu'il y ait une enquête.
Mais je crois que, si vous suivez bien, il avait été demandé de reporter la date des élections avant qu'elles ne se tiennent. Cette demande me semblait être légitime quand on regarde aujourd'hui l'évolution des choses. Et à mon avis, il fallait bien un report et donner à la justice l'occasion d'enquêter. Ça pouvait dissuader. Parce que ici, nous avons comme objectif la moralisation de la vie publique. Le phénomène, parce qu'aujourd'hui, nous avons le phénomène de l'électeur achetable. C'est un phénomène qu'on a vu en 2006, et toujours au niveau provincial. on a affaire là à un auditoire de quelques personnes. Et donc, un mandarin politique qui a accumulé de l'argent peut facilement mettre cet argent à contribution pour acheter tous ces vulnérables députés provinciaux qui finalement apparaissent comme étant des électeurs achetables. Faut-il laisser ces pratiques se perpétuer ? Moi, je crois qu'il faut à un moment donné dire oui, ces pratiques ont existé, mais il faut y mettre fin un jour. Et il faudrait qu'il y ait un courageux qui dise « Bon, je prends les risques de me jeter à l'eau ». Et il s'agit là, de mon point de vue, d'une décision forte. Mais cette décision, il ne faut pas seulement s'arrêter là. Nous avons besoin de voir la justice faire correctement son travail, établir les faits et punir les corrupteurs ainsi que les corrompus.
Alors, professeur, vous pensez que si Cash avait obtenu la majorité des sénateurs ou avait eu beaucoup de sénateurs, plus de 90% des sénateurs, on serait arrivé à cette situation, on entendrait des allégations de corruption à gauche, à droite?
Mais je crois qu'il ne faut pas considérer la corruption comme uniquement un fait d'une tendance. Une tendance X, une tendance Y, non. Moi, je considère que le phénomène corruption, et même parce que quand on parle de corruption, c'est à la fois les corrupteurs et les corrompus, ils sont dans tous les deux camps. Même si vous pouvez dire que voilà, ceux qui ont plus d'argent sont les gens de l'ancienne majorité, mais je dois vous dire que le phénomène corruption est présent dans toute la société congolaise. Il faut le déraciner. Et il faut le déraciner d'où qu'il vienne. Il ne faut pas l'attribuer à un seul camp. Il faut l'attribuer à tous les deux camps. Et il faut aussi tenir compte du fait que doivent être frappés non seulement les gens de la majorité, mais aussi les gens de l'opposition. C'est de cette manière-là qu'on peut moraliser. Alors, est-ce que les gens de Cash, s'ils avaient la majorité, est-ce qu'ils auraient pris cette décision? Eh bien, moi, je ne saurais pas répondre à cette question, parce que n'étant ni de Cash, ni de... Moi, je suis tout à fait un indépendant. Mais, en toute neutralité, je trouve qu'une telle décision aurait le mérite de moraliser la vie publique. C'est de cette manière-là que nous n'allons pas donner de mauvais signaux qu'on donne aujourd'hui.
Merci, professeur Alain Lomanja, journaliste des questions électorales. Alain Lomanja, certaines personnes estiment que cette décision du chef de l'État viole la loi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Rebonsoir madame, je dois d'abord commencer par m'excuser parce que je n'ai pas suivi les autres intervenants et je risque donc de répéter peut-être ce qui a été déjà dit. Moi personnellement, quand j'ai entendu l'annonce de cette décision-là, je les ai d'abord salués en tant que geste politique fort et une volonté réaffirmée du président de lutter contre la corruption. En effet, à la clameur publique qui dure depuis quelques jours, se sont ajoutées des manifestations populaires et des scènes de violence qui menaçaient la paix civile. Et donc, dans ce contexte-là, il était normal que le président hausse le ton et donne l'impulsion d'un mouvement collectif de lutte contre la corruption. C'est dans ce contexte-là que je comprends un peu ceux qui ne s'embarrassent pas des subtilités du droit et qui estime qu'au grand mot, il faut des grands remèdes. Mais ceci dit, je pense personnellement qu'il faut avoir aussi l'honnêteté et le courage de reconnaître que ces décisions du président laissent certaines questions de fond et de forme sans réponse. La première question pour moi, c'est le cadre de la prise de cette décision. Les décisions sont prises dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle. On sait que l'interinstitutionnel n'est pas un organe de décision ni une institution de l'État. C'est juste un cadre informel de concertation et donc on peut discuter de l'opportunité de prendre de telles mesures dans ce cadre informel-là. La deuxième question qui reste, c'est d'un point de vue juridique. Qui reste sans réponse, voulais-je dire. Parce que ni le président, ni aucune autre autorité n'ont le pouvoir d'interférer sur le processus électoral comme tel, à part la CENI et les cours et tribunaux. Et donc, si aujourd'hui, le président prend l'initiative de suspendre, par exemple, l'organisation de l'élection des gouverneurs, il y a comme une interférence dans une attribution exclusive de la CENI Et sur ce point-là, ça pose quand même un problème, même si je salue la décision qui a été prise. La troisième question qui reste pour moi sans réponse, c'est quelle est la durée de cette suspension? On sait que l'État ne peut pas fonctionner partiellement ni à temps partiel. Si l'Assemblée nationale peut investir le Premier ministre et le prochain gouvernement sans problème, quand sera-t-il du vote des lois? Parce qu'il faut les deux chambres pour voter des lois. Et qu'est-ce qu'on fera dans les provinces où les gouverneurs ont été élus députés et qui ne peuvent plus continuer à gérer leur province? Oui, autant de problèmes qui se posent à moi, et je me dis, la décision, l'impulsion, les gestes politiques, il est bon, mais il y a quand même des problèmes et des questions qu'il faut régler.
Alors, certaines personnes, analystes, il y a même des auditeurs qui nous ont écrit, qui pensent que cette décision du chef de l'État, c'est pour satisfaire Cash.
Bon, je ne regarderai pas vraiment les choses dans ce sens-là, parce que Cash, c'est une coalition politique et Cash ne pouvait pas se faire d'illusions par rapport aux résultats tels que proclamés par la CENI. On sait tous que, conformément aux résultats qui ont été annoncés, on sait que le FCC va obtenir la majorité, que ce soit aussi bien à l'Assemblée nationale, au Sénat, que dans les assemblées provinciales, dans les gouvernorats des provinces. Partout, ils auront la majorité. Ça, c'est la conséquence des résultats qui ont été proclamés. Et donc, Cash ne pouvait pas se faire d'illusions quant à ce. Ce que je pense personnellement, c'est qu'il y a eu quand même une clameur publique qui nécessitait une décision de l'autorité. Mais si vous permettez, je voudrais quand même ajouter aussi un autre élément important. Je pense que cette décision ou ces décisions du président exigent une certaine cohérence républicaine à tous les niveaux. Tenez par exemple, au niveau des élections et au scrutin direct, la loi électorale n'interdit pas la pratique des dons et des cadeaux électoraux que les candidats distribuent aux électeurs. Et donc cette pratique qui est immorale en soi, répréhensible comme ce dont nous parlons aujourd'hui, on la laisse, on la tolère. Mais après, on s'étonne que ce sont ceux qui donnent plus qui remportent les élections. Donc aujourd'hui, je crois que les députés provinciaux peut-être s'imaginent aussi qu'ils sont comme les électeurs qui reçoivent des dons des candidats. Et ça, c'est le mal qui est profond et qu'il faut déraciner à la base.
Merci Alain Lomanja. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Jérôme Bosso, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Kisenyi attend pas depuis la commune de Lemba à Kinshasa. La décision prise par le chef de l'État consistant à suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus et l'élection à venir des gouverneurs des provinces est à mon avis injuste et partisane. En acceptant les résultats aussi contestés de la présidentielle dont il est bénéficiaire, je pense qu'il doit être sportif et accepter aussi les résultats de l'élection des autres. Car refuser l'élection des autres, c'est faire une chose et son contraire.
Jérôme Bosso, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction?
Dans le cas de la décision qui a été prise par comité interinstitutionnel, c'est une décision qui n'est pas prise au hasard. C'est une décision tout d'abord politique. Nous l'avons si bien dit. Du moins, ce qu'on pourrait reprocher, c'est comme le professeur Kamau vient de dire, c'est une décision issue des concertations au niveau interinstitutionnel. Ce n'est pas une décision du président seul qui aurait pris ça. J'essaie de répéter le professeur. Donc ici, il n'y a pas quelque chose à dire d'être partisan. S'il était partisan, on allait parler de la suppression des élections. On n'a pas supprimé, on n'a pas supprimé les élections, on n'a pas annulé l'annulation des élections. Voilà le terme qui convient. On n'a pas annulé les élections. Du moins, on a essayé de recadrer. Mais maintenant, l'inquiétude, nous répétons l'inquiétude, l'impact, le timing, dans combien de temps? Dans combien de temps on a donné au PGR de traquer ce qu'il doit faire? Parce que ce n'est pas un cas nouveau. Nous sommes au troisième cycle. En 2006, moi j'avais documenté les cas de corruption au niveau des grands électeurs, au niveau de l'élection des sénateurs. J'avais même documenté avec les images à l'appui, où un corrupteur est allé récupérer la moto auprès d'un député qui n'a pas voté pour. Et j'avais fait des recommandations pour que les législateurs, pour les prochaines élections sénatoriales, qu'on puisse changer directement le mode de scrutin. Passer du mode de scrutin suffrage indirect au suffrage à ce moment-là, on allait voir comment les Kinois allaient être corrompus pour l'élection d'un gouverneur de la ville de Kinshasa.
Alors, on a suivi Abbé Lumanja qui a relevé tout à l'heure un fait. Pourquoi lors des scrutins directs, on tolère ça? On tolère que les électeurs soient corrompus de dents à gauche, à droite, de l'argent à gauche, à droite. Et pour les scrutins indirects, ça pose problème.
C'est le nom dit de la loi électorale. Et c'est là, il y a un silence. Et quand il y a un silence, chacun a sa façon d'interpréter. Parce que ici, l'électeur, c'est qui? C'est le grand électeur qui est le député provincial. Il doit faire un choix. Il se présente comme un électeur bicéphale. D'un côté, il doit faire le choix au désidérata de mot d'ordre de son parti. Soit il va faire le choix, c'est un choix objectif qui vient de sa propre conscience. Quand le lecteur, le député provincial, compare le mot d'ordre de son parti, qui est en quelque sorte une dictature électorale, et son choix objectif qui vient de sa conscience pour avoir étudier les candidats sur lesquels il doit opérer son choix librement, à ce moment-là, il se trouve à cheval. Maintenant, que faire? Et c'est de là que nous disons, nous le répétons. Et les décisions prises devaient aller trop loin pour dire, dorénavant, nous n'allons plus revenir à ce système électoral qui nous amène dans la merde, parce qu'on a fait venir ressortir ici l'élection des députés, des sénateurs, ça a donné quel cliché, quelle image du pays, au niveau interne et au niveau externe. Parce que la capacité de toute une nation, c'est savoir comment réformer. Pourquoi il y a réforme électorale? C'est pour changer ce qui n'a pas marché. On devait changer ce qui n'avait pas marché en 2006. Lors de l'élection de sénateur, on n'a pas changé. Nous nous trouvons aujourd'hui, tout le monde parle des allégations de corruption. Que faire? Il faut anticiper. Il faut recourir aux stratégies techniques. Que ce soit les partis qui ont remporté ou bien ceux-là qui ont échoué. Qu'est-ce qu'il faudrait pour parer à cela? Si, quand j'avais motivé aussi à la hauteur, avait motivé ces députés provinciaux à la hauteur que d'autres formations FCC et la Mouka. Nous pensons qu'on n'allait pas décrier aujourd'hui ce que nous décrions aujourd'hui. Tous les trois sont des acteurs clés. La population, les militants, les combattants, les députés eux-mêmes, un électorat de grands électeurs, et l'autorité morale. Donc, ici, il y a toute une responsabilité que nous devons tous partager en cas de défaite, comme le cas de Cash, et en cas de victoire, comme le cas de FCC, et voir comment améliorer prochainement lors de l'élection de gouverneur, parce que c'est le même système qui va continuer si on ne change pas le système, le scrutin qui est suffrage universel, suffrage indirect.
Merci, Jérôme Bosso, professeur Félicien Kabamba. On a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa, encore une fois.
De Kinshasa. En tout cas, à mon avis, dans cette décision du chef de l'État, il y a à boire et à manger. D'abord, sur la suspension de l'installation du Sénat. Aucun texte ne donne cette prérogative au président de la République. Bien sûr, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais attention, c'est dans le cadre légal. Il y a aussi un problème d'effectivité des décisions prises par les chefs de l'État. Ce n'est pas pour la première fois que le procureur général est instruit. Je cite ici le cas échéant d'un membre du gouvernement qui a été mis à la disposition de la justice. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun effet. Le ministre en question continue à poser des actes comme si rien n'était. Je crains donc que ces enquêtes ne restent que dans la bouche.
Professeur.
Oui, en fait, vous posez là une question qui a toujours été relevée. Le PGR, pour se saisir de la situation, et notre PGR attend généralement qu'il y ait des situations où finalement on lui dit, écoute, saisis-toi de telles questions. Moi, j'ai été étonné de voir que le PGR, la justice, n'a rien fait. Alors qu'il y a eu plusieurs personnes, Luzolo Bambi, vous avez... Vidi Timanga, vous avez plusieurs personnes.
Le PGR avait quand même écrit à la CENI pour demander le report de ces élections.
Oui, le report, mais après combien de temps? Parce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps. Pendant que, disons, avant qu'il ne puisse écrire.
Il fallait donc beaucoup d'éléments avant de faire cette demande.
Mais je crois qu'il ne fallait pas négliger toutes ces défections que les uns, les autres, les gens aussi bien de FCC que de l'UDPS, évidemment, c'était là des faits dont il fallait, en fait, à partir desquels il fallait partir. Mais, en fait, aujourd'hui, on est devant une situation où il faut que la justice fasse quelque chose. Parce qu'il s'agit là de faits qui nous entraînent tous dans une très grande immoralité. Et de mon point de vue, on ne peut pas rester bras croisés. Il faut que la justice fasse quelque chose. Mais au-delà de ça, vous avez un autre phénomène qui explique évidemment cette déconfiture de députés provinciaux. C'est le faible encadrement des élus. Là, les partis politiques n'ont pas seulement comme fonction de sélectionner les candidats. Une fois que les candidats ont été sélectionnés et qu'ils ont été élus, vous devez encadrer les élus. Et l'encadrement des élus doit être un encadrement. Vous savez que la plupart de ces élus sont probablement des gens qui font leur premier pas dans la politique. Et donc, devant des petites avances de quelques milliers de dollars, ils puissent décider. Et donc, quand ils ne sont pas politiquement mieux encadrés, eh bien, il y a beaucoup de chances qu'ils cèdent à des sollicitations. Et c'est bien ce qui est arrivé. Bien entendu, la plupart de ces élus sont également des personnes très vulnérables, conditions sociales à ses limites et donc n'ont pas résisté à la tentation de tomber aux sollicitations de ceux qui estimaient avoir plus de moyens.
Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer cet acte-là comme une propagande, comme on le voit dans les scrutins directs?
Il ne s'agit pas là d'une propagande. La propagande, et évidemment, on a fait allusion aux donations.
On a fait allusion aux donations.
Dans les donations, vous allez voir que la personne, le candidat, va vers la population. Il a des t-shirts qu'il distribue, ainsi de suite, votez-moi, ainsi de suite. Bon, voilà. Par contre, ici, suivez très bien les discours de ceux qui sont désistés. Ils disent, avant d'accepter de me donner sa voix, il exige l'argent. Là, c'est il exige l'argent. Là, on n'est plus dans le cas des donations. Là, on est dans la corruption. Vous voulez acheter ma voix? Eh bien, elle coûte autant. Là, il ne s'agit plus de simples donations dont il est question. Encore, je suis d'accord avec Lomandja qu'il faut bien encadrer ça. Parce qu'il faut dire que la plupart de ces personnes n'ont profiter de la faiblesse de la loi pour opérer d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Vous avez également d'autres types de corruption. Quand vous regardez les grosses légumes, c'est qu'il a été élu comme député provincial, il a été élu comme député national, il s'estime qu'il a suffisamment de moyens pour se faire élire comme sénateur. En entre-temps, il a été candidat peut-être président de la République. Et donc, le gars se dit, l'homme se dit que, eh bien, par son poids, par son appartenance à une certaine bourgeoisie, il peut obtenir tout ce qu'il veut comme position politique. Et donc, toute la question qu'il faut se poser, c'est que comment la même personne qui est à la fois député provincial, député national, sénateur, comment il va donc opérer? Il y a là, moi je me rends compte, une grande faiblesse de notre loi. Et cette faiblesse doit être couverte. C'est de cette manière-là qu'on peut apporter des réformes assez idoines et adéquates pour essayer de modifier les choses.
Alain Lomandja, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tshopo.
C'est M. Julio Amesila depuis Kisangani dans la Tshopo. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dit-on. Gouverner, c'est prévoir, avoir un esprit anticipatif. La décision de la réunion interinstitutionnelle de ce lundi me semble maladroite, d'autant plus que avant la tenue de ces élections, le procureur général de la République avait déjà à son temps notifié à la CENI avec copie réservée à toutes les institutions de la République d'asseoir à ces élections et permettre d'ouvrir des enquêtes afin de décourager les auteurs de ces actes infractionnels. Mais hélas, la démarche était sanctionnée par un refus catégorique de la part de la CENI, voulant respecter scrupuleusement son calendrier électoral. Et aujourd'hui, puisque le candidat de l'IDPS n'ont pas réussi mandat de leurs députés, vous voulez bloquer toute une nation. Et que dirait de ses compatriotes qui réclament jour et nuit la vérité des urnes? Ne sont-ils pas des Congolais? Nous disons non à la politique de deux poids, deux mesures. Je vous en remercie.
Alain Omandja, réaction. Est-ce que vous êtes en ligne, Alain Omandja? Je crois qu'on l'a perdu, la réalisation va essayer de le retrouver. Jérôme Bosso, vous avez suivi quand même cette réaction de Kisangani, de Julio, qui nous écrit, qui nous appelle depuis Kisangani, qui estime qu'il y a deux poids, deux mesures.
C'est difficile à le confirmer, mais du moins ici, nous avons eu le souci de descendre, d'étendre l'environnement sociopolitique du pays. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés à cela, c'est le comportement de nos députés provinciaux qui n'ont pas été encadrés, comme le professeur vient de le dire. Parce que quand vous donnez à un député provincial qui a hypothéqué sa parcelle, qui a fait la campagne sans l'assister, sans avoir l'argent du parti ni de l'autorité morale, vous lui demandez, vous lui donnez un mot d'ordre. Un mot d'ordre qui n'est pas accompagné de moyens matériels et financiers, il ne va pas le faire. Même la tentative est biblique, madame. Jésus-Christ, après avoir porté la croix, il était affamé. Un opportuniste au nom de Satan lui a porté à boire et à manger. Parce que son père l'a abandonné. Mais si son père n'était pas intervenu à temps réel, Jésus allait succomber, allait manger. C'est ça le même comportement de nos députés provinciaux. Donc, c'est à nous de nous rendre compte. On a reporté maintenant l'élection du gouverneur. Mais c'est avec le même système. C'est à vous, cache la Mouka et FCC, de rectifier les stratégies. Comment vous allez encadrer vos joueurs? Et vous diriez, vous allez détruire les maisons. Mais comment vous allez encadrer, faire comme l'équipe de football FC Renaissance, qui faisait collecte pour motiver ses joueurs? Le panier était rempli de billets de banque. Et vous, militaires et combattants, qu'est-ce que vous avez fait pour que vos candidats qui sont devenus corrompus puissent être mis à l'abri pour ne pas recourir à cela? Il ne suffit pas de crier en dernière minute il y a des corrompus. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous, en tant que combattant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous, en tant que député provincial, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'autorité morale? Donc, la défaite, tout comme la réussite, à cette matière, dans le cas précis, merci, est partagée par les trois acteurs clés de cette débatte ou bien de cette réussite.
Merci, du procès électoral. La réalisation me signale que Alain Lomancha est en ligne. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends, madame.
Alors, je disais qu'on a, une réaction pour vous, Alain Lomancha, qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
C'est monsieur Julio Amesila depuis Kisangani dans la Tchopo. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dit-on. Gouverner, c'est prévoir, avoir un esprit anticipatif. La décision de la réunion interinstitutionnelle de ce lundi me semble maladroite, d'autant plus que, avant la tenue de ces élections, le procureur général de la République avait déjà à son temps notifié à la CENI avec copie réservée à toutes les institutions de la République d'asseoir à ces élections et permettre d'ouvrir des enquêtes afin de décourager les auteurs de ces actes infractionnels. Mais hélas, la démarche était sanctionnée par un refus catégorique de la part de la CENI, voulant respecter scrupuleusement son calendrier électoral. Et aujourd'hui, puisque le candidat de l'IDPS n'ont pas réussi mandat de leurs députés, vous voulez bloquer toute une nation. Et que dirait de ses compatriotes qui réclament jour et nuit la vérité des urnes? Ne sont-ils pas des Congolais? Nous disons non à la politique de deux poids, deux mesures. Je vous en remercie.
Alain Lomandja.
Je comprends parfaitement la réaction de l'auditeur. On assiste en effet à une sorte de cacophonie au niveau institutionnel parce que quand le procureur général de la République a écrit à la CENI, cela a été regardé comme une injonction donnée à la CENI, mais on pouvait aussi le comprendre comme une demande de collaboration interinstitutionnelle, et cette demande a été rejetée. Bon, par contre, là où je suis un peu hésitant, je ne voudrais pas peut-être rattacher les décisions d'aujourd'hui uniquement à la revendication des combattants de l'UDPS.
à mon avis, il y a eu quand même une grande clameur populaire, une grande clameur de la population congolaise et qui devait être entendue par les autorités. Et je pense que c'est bon que ça soit entendu. Seulement, la question qui restera ouverte, c'est est-ce que on a tous les moyens pour pouvoir mener ces enquêtes jusqu'au bout à partir du moment où l'on sait que et les grands électeurs et les sénateurs élus se savent en danger en cas d'établissement en fait et en droit de leur corruption. Est-ce qu'ils vont collaborer réellement pour que la justice soit dite? Là, je me pose la question, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je voudrais peut-être rapidement rappeler quelque chose, et j'ai entendu ça a été répété par mon frère Jérôme, c'est que il y a une affirmation grave de vouloir dire que cette décision d'aujourd'hui n'est pas une décision du président, mais de la réunion interinstitutionnelle. Il faut faire attention à ça parce que ce cadre de concertation-là est informel et il n'a aucun pouvoir de décision sur les affaires de l'État. Le président peut décider pour garantir le bon fonctionnement des institutions et on peut le comprendre. Mais n'attribuons pas cette décision du président à un cadre informel de concertation qui n'est pas une institution.
Alors, Abel Omandja, il y a Franck depuis Kisangani qui pose cette question, qui demande si le motif avancé par le président de la République est suffisant et fondé pour qu'on suspende le processus d'installation d'une institution comme le Sénat et qu'on reporte l'élection des gouverneurs.
Bon. Le motif en soi, il est fondé. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut savoir ce que nous voulons en tant que nation. Je ne nous vois pas en tant que nation en train de reproduire des procédures électorales qui sont déjà vidées elles-mêmes par, dans leur contenu et dans leur signification par des actes flagrants de corruption. À quoi ça sert d'avoir des élus qui n'auront pas de compte à rendre parce qu'ils ont acheté leur voix et donc ne serviront pas la nation en tant que telle? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser parce qu'il s'agit de fondamentaux d'une république. Par contre, on ne peut pas se limiter à ce qui se passe aujourd'hui. Il faut regarder tout le processus en général. Et moi, je me dis, il faut aller même jusqu'au résultat des élections, des scrutins directs qui sont contestés. S'il y a eu des cas de corruption là-bas, il faut quand même qu'on arrive à faire la lumière à ce sujet-là. Comme ça, l'État ne sera pas perçu comme un État partisan.
Merci, Abel Omandja, professeur. Il y a Florent qui nous écrit depuis Béni, qui demande pourquoi le président n'a pas annulé carrément ses élections au lieu de les suspendre, car à la fin, on aura toujours les mêmes résultats puisque le FCC reste majoritaire dans les assemblées provinciales.
Ah non, il ne pourra pas les annuler. Je ne vois pas comment cela va se passer. Par contre, la décision qui a été prise est une décision qui, de mon point de vue, essaye de mieux recadrer les choses, mais éviter évidemment que dans le prochain scrutin, de tels comportements ne puissent se reproduire. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir, c'est que le système électoral congolais, dans son ensemble, il ne donne pas les mêmes chances à tous les candidats. Les reproches qu'on a fait à ce système, à l'élection présidentielle, ces reproches, eh bien, sont valables. Le reproche qu'on fait au système, en ce qui concerne le législatif, ces reproches, il faut les prendre au sérieux. C'est tout ce système électoral qu'il faut absolument réformer. Si nous devons avoir un système électoral qui donne les mêmes chances à tous les candidats, nous devons nous regarder tous ensemble et dire non, ce n'est pas ça ce que nous méritons.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Jérôme Bosso, votre conclusion en 30 secondes.
Je paraphrase Paul McCain qui dit les gens n'échouent pas aux élections. Ce sont les stratégies, les méthodes et les tactiques et les plans qui échouent. C'est le cas de nos amis de CAC qui n'ont pas échoué aux élections. Ce sont les stratégies et leurs plans qui n'ont pas pu tourner. Ils doivent revoir pour arriver à la victoire lors de l'élection de gouverneur.
Alors, Lomanta, conclusion.
Je voudrais appeler ceux qui rêvent de faire de l'élection présidentielle au Congo une élection indirecte. Je voudrais les appeler à tenir compte de ce que nous sommes en train de vivre maintenant et de ne pas amener le pays dans une voie sans issue.
Merci Alain Lobanja, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe, Guy Maté, Donna Madimba, Willem Lungamba qui était à la prise de son, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.